Oui, bonjour.
Il semble, selon certains échos, que la demande semble bonne, en tout cas meilleure qu'on l'anticipait concernant la prochaine année scolaire en éducation, à savoir le nombre de demandes d'admission, là.
Ben, effectivement, je pourrais dire que ça fait, dans le réseau des universités québécoises, probablement environ 7 ans qu'il y a une baisse graduelle des demandes d'admission dans toutes les universités. Et bon, ça varie d'une année à l'autre, mais grosso modo, on a vu cette baisse-là depuis 7 ans. Et puis, cette année, effectivement, quand on regarde les chiffres de l'ensemble des universités, il y a une augmentation plus grande à certains endroits, moins grande à d'autres. Quand on regarde chez nous à l'Université de Sherbrooke, dans les programmes de formation en enseignement, grosso modo, pour les demandes d'admission, ça va d'une augmentation de 12 % dans certains programmes, à d'autres où ça va à 4 % à peu près. Alors, c'est variable.
Oui, puis il faut faire aussi la nuance importante entre les demandes d'admission et les inscriptions formelles, parce que certains étudiants sont tentés de faire des demandes dans plusieurs universités, là.
Ben effectivement, là, dans le processus, la première étape, c'est les demandes d'admission, donc des étudiants qui nous disent, ben je suis intéressé à aller en enseignement préscolaire primaire, mais ils font peut-être la même demande dans une ou deux autres universités. Nous, à ce moment-là, on analyse leur dossier, on leur fait une offre d'admission, mais c'est par la suite qu'ils vont nous confirmer qu'ils font le choix de venir chez nous et là vont s'inscrire aux différents cours, confirmer leur présence. Alors, le fait qu'il y ait une augmentation des demandes d'admission n'est pas nécessairement un gage d'augmentation du nombre d'inscriptions. Ça, on est actuellement à suivre nos statistiques. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Surtout si on compare au fait que dans les dernières années, ça a été jusqu'à des baisses de 10 % des demandes d'admission. Donc là, si on est un peu en augmentation, on peut espérer que ça va se traduire à un nombre d'inscriptions un peu plus élevé.
Oui, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi convenir, puis j'ai été de ceux à dire ces dernières années qu'à un moment donné, il fallait peut-être aussi qu'arrête cette impression que la faculté d'éducation était un fourre-tout pour bien des étudiants. C'est que on s'en allait là, mais pour plusieurs, c'était quasi une voie d'évitement ou c'était une entrée, puis après ça, on allait ailleurs. Est-ce que ça semble peut-être aussi ça venir clarifier un peu plus la clientèle de la faculté d'éducation, c'est-à-dire que les gens qui s'en vont là, c'est parce qu'ils souhaitent devenir des pédagogues?
Je le souhaite effectivement, mais je n'ai pas les chiffres exacts sur l'analyse des étudiants, des étudiantes pour lesquels c'est le premier choix, l'éducation. C'est certain que dans un certain nombre de cas, c'est le deuxième choix, ce n'est pas le premier choix, mais ça fait quand même partie de leur choix, puis ce n'est pas un phénomène nouveau. Maintenant, nous autres, on veut aussi avoir des étudiants de qualité, fait qu'on est aussi préoccupés d'admettre des étudiants qu'on considère avoir le potentiel, puis ben, les résultats académiques au cégep, c'est assurément une donnée. Mais il semble quand même avoir un peu plus d'engouement pour la formation en enseignement. On regarde un autre programme qui est le programme de maîtrise qualifiante, là, qui permet aussi d'avoir l'autorisation permanente d'enseigner. Et ça, c'est des gens qui ont, par exemple, un bac en histoire ou un bac en mathématiques, puis qui ont le goût de se dédier à l'enseignement. Et là, chez nous, cette année à Sherbrooke, il y a vraiment une croissance très importante du nombre de demandes d'admission dans ce programme-là,
Et c'est
dans
très
ces
bon, ça.
programmes-là. Oui, effectivement. Alors, ça, c'est pour l'instant, ce sont des programmes qui permettent d'enseigner au secondaire, parce que c'est des gens qui ont un bac disciplinaire. Et là, donc, ça permet de dire, ben, OK, les maths, mais j'aimerais ça enseigner les maths au secondaire. Là, le défi qu'on a, c'est de voir si on est capable de développer une maîtrise qualifiante au primaire, mais ça pose des défis de savoir qui on admet et avec quelle discipline.
Mais on s'entend que c'est tellement une plus-value pour des écoles secondaires d'avoir des bacheliers dans un domaine précis qui deviennent pédagogues de cette matière précise. Et ça, me semble que ça donne le meilleur prof ou la meilleure prof devant une classe, c'est-à-dire quelqu'un de qualifié dans le domaine en plus d'être formé pédagogue.
Ah ben c'est évident qu'il y a cet avantage-là, mais en même temps, il y a eu ce genre d'analyse-là auprès des commissions scolaires cette année pour voir s'ils voyaient une différence entre les étudiantes formées au baccalauréat et ceux formés à la maîtrise qualifiante, puis s'il y en avait qui semblaient être meilleurs que les autres en termes de formation ou d'enseignants.
Ouais.
Puis les résultats qu'on m'a communiqués, c'est que les commissions scolaires considèrent que les deux types d'étudiants, on ne peut pas les distinguer.
Okay.
Donc, on se dit, ben tant mieux, ça veut dire que les deux formules de formation permettent de
qualifier
et de préparer des gens adéquatement.
OK. Parlons-en justement, parce que la pénurie étant ce qu'elle est, puis ça crie au loup partout, il manque même de remplaçants. Il semble d'ailleurs qu'il y a plusieurs commissions scolaires là, qui s'arrachent les finissants, puis ce serait le cas pour notre université. Là.
Ah, ben c'est le cas pour, je dirais, toutes les universités. D'ailleurs, à titre de président de l'Association des doyens et doyennes en éducation au Québec, où on représente toutes les universités francophones puis anglophones, le phénomène se retrouve partout à hauteur différente. Alors, nous, on a mis en place, on a sollicité le ministère pour travailler sur un comité avec des directions générales de commissions scolaires pour envisager des solutions court terme et des solutions moyen terme. Mais c'est sûr que dans certains cas, il y a un manque très grand de personnes, d'enseignants, d'enseignantes légalement qualifiées.
Ouais.
Et là, il y a des enjeux pour trouver des solutions. Et à titre de président, là, je suis sollicité beaucoup pour tenter d'explorer puis aider à trouver. Mais oui, le phénomène de sollicitation, ça va jusqu'à nos étudiants de première année.
Ah oui.
Et donc, le phénomène, c'est qu'ils acceptent de la suppléance pour dépanner.
Oui.
Parce que aux commissions scolaires, ils se disent ben, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a au moins un début de formation que personne qui travaille ailleurs au service de garde ou à la surveillance extérieure ou etc. à la bibliothèque.
Oui.
Mais en même temps, ce phénomène-là fait en sorte qu'il y a des étudiants qui n'assistent pas à certains cours pour faire de la suppléance. Fait que là, on creuserait notre trou un peu. Là. Fait que
il faut structurer ça
pour aider les commissions scolaires, mais s'assurer que nos étudiantes vont aussi pouvoir suivre leur programme de formation de manière adéquate.
Oui, tout à fait, mais en même temps, on peut marcher de la gomme dans le sens que ça peut tellement devenir complémentaire. Puis moi, j'ai toujours dit que la meilleure façon d'apprendre un métier, c'est de le pratiquer, c'est d'être là où ça se passe. Est-ce que ça peut pas devenir aussi une nouvelle ouverture de formation, c'est-à-dire que dès la première année, il y a de cette participation des étudiants dans les classes?
Ben, ça existe déjà. Sur les 4 ans du baccalauréat, depuis que le baccalauréat est passé de 3 ans à 4 ans, la décision de faire ça a été surtout pour augmenter le nombre d'heures de formation pratique, donc de stage en milieu de pratique. Donc, dès la première année, il y a un stage de plus ou moins 2 semaines. La deuxième année, on augmente. Puis, quatrième année, c'est vraiment un stage de prise en charge de la classe. Ça demande quand même un niveau de connaissance minimum, puis les stages le permettent aussi. Fait que là, c'est comment on trouve l'équilibre entre formation pratique, comme vous dites, là, dans les écoles, dans la classe, mais aussi formation disciplinaire, puis formation au niveau des savoirs. Si on parle, par exemple, du développement de l'enfant, tout ça, il faut quand même pas évacuer ça. C'est pas juste l'expérience qui va faire en sorte qu'on va être un bon enseignant ou une bonne enseignante.
Non,
oui, ça s'ajoute, mais c'est pas seulement ça.
OK. Ben excellent. Merci beaucoup de ces précisions, M. Striganok.
Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée à vous.
Merci.